Les années-lumière, édition du 4 juillet 2010. On vient de découvrir une signature génétique dans la longévité des personnes centenaires, un autre pas dans notre quête obstinée d'immortalité. Bonjour, ici Sophie-André Blondin. Animer les années-lumière, c'est un sport d'équipe. Je prends donc le relais de Chantal Srivastava pour remplacer Yannick Villedieu à la barre de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Merci Chantal.
Un sport d'équipe, une émission démocratique, on fait du tout pour un ici.
Tout, oui, justement, féminin. Cette édition des années-lumière, elle va commencer avec ses dernières découvertes au sujet de la longévité. On a trouvé des groupes de marqueurs génétiques dont la présence permet de prédire avec une précision appréciable les chances qu'un individu devienne centenaire. Même super centenaire, mais la génétique n'a pas réponse à tout. Et puis Mathieu Gobeil, notre stagiaire de la Bourse Fernand Seguin, vous nous expliquerez que les oiseaux ont besoin, eux aussi, d'apprendre à chanter.
Oui, en effet, certaines espèces doivent prendre des cours de solfège. Il leur faut un tuteur compétent et assidu pour bien chanter.
Ensuite, au courrier des années-lumière, Gaëlle Lucia Berdou, comment vieillir, non pas en santé, mais en beauté?
Oui, nous répondons à deux questions cette semaine au sujet des dangers possibles des soins pour la peau, ceux des crèmes solaires et des crèmes anti-rides.
Et pour terminer la première heure, la chronique des années-lumière, en rappel, l'écho de Cassiopée A, l'étude de l'explosion d'une étoile plus de 300 ans après les faits, avec notre astronome en résidence, Laurent Drissen. Puis en deuxième heure, nous poursuivons notre série estivale qui souligne l'année mondiale de la biodiversité. C'est une série qui s'intitule « 6 milliards d'espèces, une planète ». Cette semaine, Chantal Srivastava, dans les eaux limpides d'Onola, quelques zones plus troubles.
Des lacs qui sont de plus en plus troublés, entre autres à cause de la pollution. On ira faire un tour en canot avec une biologiste qui essaie d'éclaircir tout ça.
Et pour terminer l'émission, en rappel, une grande rencontre avec Jean-Pierre Luminet, auteur prolifique à la fois dans son champ scientifique, l'astrophysique, mais aussi avec des romans, des poèmes, des pièces musicales, des œuvres peintes. Une longue entrevue avec le père de la théorie de l'univers chiffonné. Mais tout d'abord, génétique et longévité. Dans les pays industrialisés, une personne sur 6 000 soufflera au moins 100 bougies. Une sur 7 millions passera le cap des 110 ans. On dira alors d'elle qu'elle est une super centenaire. Ces centenaires ont-ils simplement gagné le gros lot à la loterie génétique? La réponse, vous vous en doutez, elle n'est pas si simple. Mais des chercheurs ont tout de même trouvé récemment une signature génétique particulière chez ces gens qui ont une longévité exceptionnelle. C'est une découverte qui leur a permis de développer un modèle génétique qui prédit à 77 % la longévité exceptionnelle chez un individu. Pour la plupart, ces chercheurs sont associés à l'École de médecine de l'Université de Boston et leurs résultats ont été publiés cette semaine dans la revue Science. L'équipe de Paola Sebastiani a étudié des génotypes de 801 centenaires et super centenaires qui font partie de la New England Centenarian Study. C'est une grande cohorte de centenaires qui fait l'objet d'études depuis 1995. Elle les a comparés avec ceux d'autres sujets dans la population qui avaient tout de même un âge assez respectable puisque l'âge médian était de 103 ans. Parmi ces individus qui vivent exceptionnellement longtemps, il y avait assez de ressemblances génétiques pour développer un modèle qui prédise la prédisposition d'une personne à devenir centenaire. Les explications de Paola Sebastiani, biostatisticienne de la Boston University, auteure principale de l'article dans Science.
We developed a genetic model that can be used to compute the predisposition of an individual to exceptional longevity.
Nous avons développé un modèle génétique qui peut déterminer la prédisposition d'un individu à une longévité exceptionnelle. Après avoir testé notre modèle sur un échantillon indépendant de centenaires, nous avons déterminé que le modèle est efficace dans 77 % des cas. D'un côté, 77 % c'est très élevé pour un modèle génétique. Ça nous confirme que la longévité exceptionnelle a une forte base génétique. Par ailleurs, on peut interpréter le taux d'erreur de 23 % de deux façons. Premièrement, il nous en reste à découvrir du côté du génome humain. Il pourrait y avoir des variantes génétiques qu'on ne connaît pas encore et qui ne sont pas apparues dans notre étude. Deuxièmement, si nous soupçonnons que la génétique est fondamentale dans la prédisposition à une longévité exceptionnelle, il y a plus. Des facteurs comme l'environnement et les habitudes de vie peuvent contribuer à ce que les gens vivent longtemps et en santé.
Paola Sebastiani de l'équipe de chercheurs qui a aussi dégagé une signature génétique des combinaisons de gènes présentes chez un sous-groupe de personnes qui vivent exceptionnellement longtemps et chez qui les maladies associées au vieillissement apparaissent aussi beaucoup plus tard dans la vie. On savait que la longévité exceptionnelle avait une forte base génétique, mais ses derniers travaux le confirment. Mais rien n'est si simple et comme Madame Sebastiani vient de le dire, il reste des réponses à trouver. Des réponses entre autres dans deux types d'interactions. Des interactions entre les gènes qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas encore. Des interactions aussi entre le bagage génétique et l'environnement d'un individu, ses habitudes de vie. Alors, pour comprendre la portée de ces nouvelles découvertes, je suis allée rencontrer Siegfried Ekimi au laboratoire qui porte son nom. C'est au Centre McGill d'études sur le vieillissement.
On savait déjà que la génétique avait son importance pour la longévité moyenne, que au moins 30% des différences de longévité moyenne, si vous allez vivre jusqu'à 60 ans ou jusqu'à 80, c'est basé sur la génétique. Et maintenant, cette étude-là cherche à déterminer quelque chose de similaire pour les gens qui vivent très vieux. Est-ce que quelle partie qui leur permet de vivre très vieux, c'est dû à la génétique? Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'en fait, c'est plutôt une plus grosse partie que pour la durée de vie moyenne. Et qu'effectivement, il y a un fond génétique important qui permet à ces individus de devenir si vieux. On va voir que dans cette étude, on prend un groupe particulier de centenaires et on regarde si génétiquement ils diffèrent d'un groupe contrôle. Et on voit que oui, il y a beaucoup de gènes qu'on retrouve à plus haute fréquence chez ces centenaires que dans le groupe contrôle. Donc on peut les définir génétiquement. Maintenant, cette définition est très complexe. Donc c'est pas de dire, ah ben voilà, on va mesurer un truc simple et puis on va voir ça, vous avez maintenant une chance de devenir centenaire. Non, c'est une définition génétique, oui, on dit, ah ben voilà, tel gène a une plus grande probabilité de se retrouver chez un centenaire, mais c'est quand même une définition extrêmement complexe. Et en plus de ça, ce qui est très clair, c'est que c'est pas tous les centenaires ont la même signature. Donc on a une signature globale de la capacité de devenir centenaire, mais clairement il y a plus qu'une façon de devenir centenaire et les gènes qui peuvent y prédisposer, ben, il y a plus qu'un seul groupe de gènes, il y a des sous-groupes. Certains centenaires vont avoir certains gènes, d'autres. Et finalement, aussi très important dans cette étude, je crois, ils ont trouvé un nombre non négligeable de centenaires qui ne montraient pas du tout cette signature. Et cela, en fait, reste très intéressant car il va falloir comprendre pourquoi ils ne la montrent pas.
Un autre chemin qu'on ne connaît pas encore pour devenir centenaire et super centenaire.
Oui, un autre chemin pour devenir centenaire et super centenaire est peut-être, dans ce cas-là, un chemin qui n'est pas basé sur un grand nombre de gènes différents, mais peut-être qu'on n'a pas trouvé des gènes, des mutations rares. Donc, si ces centenaires-là, qui semblent être différents...
Les 23%
ont en fait un gène extrêmement rare, mais peut-être juste un ou deux, quelque chose de plus spécifique que le groupe entier qui leur permet de vivre si vieux, ce sera très intéressant de trouver ce que c'est.
Les chercheurs l'ont dit, ils et elles s'attendaient à trouver chez les centenaires et les supercentenaires des individus qui ne présentaient pas ou peu de facteurs de risque à des maladies associées à la vieillesse. Alors qu'on trouve chez ces gens-là, et ils semblent avoir été surpris, presque autant de facteurs de risque que dans la population générale.
Voilà, c'est vrai, ça c'était une trouvaille intéressante, que ce qui a l'air de permettre à ces individus de vivre jusqu'à 100 ans, on va dire, ce n'est pas de n'avoir pas de facteurs de risque, mais c'est d'avoir probablement des facteurs de résistance. Mais il faut se souvenir qu'on ne comprend quand même pas très très bien les facteurs de risque pour les grandes maladies qui limitent la durée de vie, comme le diabète, le cancer. Ces facteurs de risque, on ne les connaît pas bien, on n'a pas vraiment une signature, je ne peux pas vraiment regarder votre génotype et dire « Ouh là là, vous allez sûrement mourir du cancer à 75 ans hein. ». On n'a pas vraiment ça. Donc, dans un sens, d'avoir pas trouvé les candidats marqueurs de facteurs de risque, c'est même intéressant de ce que ça nous dit quant aux facteurs de risque et à quel point on les comprend. Ça c'est un des points que je pense qui est important dans cette discussion-là. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que il faut bien voir que peut-être parce que les facteurs de résistance peuvent avoir une action plus large. Okay. Donc, par exemple, si un gène vous prédispose à faire de l'exercice régulièrement, ça va, ça vous prédispose peut-être mentalement à en faire. Ça va peut-être affecter beaucoup plus de risques que vous pourriez avoir, parce que maintenant, vous avez moins d'ostéoporose, vous avez moins de problèmes métaboliques, vous avez moins de ceci, moins de cela. Donc, il y a un effet plus large, et c'est peut-être pour ça que c'est plus important d'avoir plus des facteurs de résistance plutôt qu'une absence de facteurs de risque.
C'est une étude qui a examiné des centenaires et des supercentenaires. L'âge médian de l'échantillon de contrôle était de 103 ans. C'est impressionnant. Est-ce que ça ne concerne que la clientèle des centenaires et des supercentenaires? Est-ce que ça nous en apprend par rapport au plus large public et à notre capacité d'évaluer notre longévité dans le public plus général?
C'est une question compliquée. Ce qui a été trouvé est suffisamment prédictif du passé, si j'ose dire, prédire le passé. Mais il faut bien comprendre que tous les facteurs génétiques ne se manifestent que par une interaction avec l'environnement. Et que donc ces mêmes facteurs qui ont permis à des gens qui ont vécu au siècle dernier, dans les derniers 100 ans pour être centenaires de nos jours, de vivre longtemps dans leur village, quelque part aux États-Unis, puisqu'il y a un grand groupe qui vient de New England, ça ne veut pas dire qu'avec notre mode de vie moderne, d'alimentation, d'activité, ainsi de suite, ça va nécessairement nous permettre de vivre plus vieux aussi. Je vous donne un exemple. Si certains de ces centenaires avaient des gènes qui les protégeaient des effets néfastes du tabac, de nos jours où les patrons de qui fument pas, ça a beaucoup, beaucoup changé. Donc, peut-être c'est pas un gène qui est si important de nos jours pour vivre jusqu'à 100 ans. Mais ça l'était crucialement chez les hommes, par exemple, au siècle dernier.
Parce que les gens fumaient plus.
Parce que les gens fumaient systématiquement.
Siegfried Ekimi, spécialiste du vieillissement au département de biologie de l'Université McGill. Maintenant, que faire avec cette information? Que faire de cette possibilité de prédire à 77% votre prédisposition génétique à devenir centenaire ou supercentenaire? Un des auteurs de l'étude, Thomas Pearls, du Center for Human Genetics de l'Université de Boston, croit qu'il faudra user de prudence.
What do you do when you're told you absolutely don't have the signature for exceptional longevity?
Que faites-vous si on vous dit que vous n'avez absolument pas la signature génétique pour la longévité exceptionnelle? Allez-vous vous mettre à avoir tout plein de comportements à risque? Au contraire, allez-vous prendre soin de votre santé encore plus et miser sur la possibilité que vous fassiez partie des 23 % d'individus qui n'ont pas la signature génétique, mais qui deviennent centenaires quand même?
And then there could be those individuals, I suppose, who have this amazing signature, like some of our super
centenarians. Et puis il pourrait y avoir aussi des gens qui ont une signature génétique superbe, presque tous les marqueurs qui prédisposent à vivre jusqu'à 110 ans, comme certains de nos super centenaires. Alors je m'inquiète un peu de ce que les compagnies d'assurance, entre autres, pourraient faire de cette information. Bref, je crois que nous ne sommes pas prêts socialement pour un test, mais ça n'empêchera pas des compagnies d'essayer de vous en vendre.
Thomas Pearls, responsable de le New England Centenarian Study, est l'un des auteurs de l'étude génétique des centenaires et des supercentenaires qui paraissait cette semaine dans la revue Science. Qui sait, en effet, peut-être qu'un des secrets de la longévité, c'est de ne pas acheter tout ce qu'on essaie de nous vendre.
Lily Boisvert, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radiotradeunioncanada.ca/lumière et également en diffusion en direct par satellite Sirius et en flux MP3. Vous pouvez aussi emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Les Années-Lumière débordent de l'espace-temps.
Que vous viviez en ville ou à la campagne, si vous tendez l'oreille, vous entendrez certainement le gazouillis des oiseaux. Mais ces oiseaux chantent-ils le même chant d'année en année? L'ont-ils appris? Est-ce qu'il est inné? Mathieu Gobeil, boursier Fernand Seguin aux Années-Lumière, vous allez nous parler d'apprentissage du chant chez les oiseaux.
Oui, Sophie André, bien que les poules caquettent et que les pigeons roucoulent, ils n'ont toutefois pas besoin d'apprendre ce cri de leurs parents. C'est inné chez eux. Mais chez les oiseaux chanteurs qui ont un organe vocal sophistiqué, comme les bruants, les mésanges ou les pinsons, il y a un apprentissage à faire. On parle alors de transmission culturelle du chant.
Donc des oiseaux qui auraient une culture.
Oui, c'est ça. Les biologistes le savent parce qu'on a isolé des oiseaux chanteurs mâles dès leur naissance en les privant du contact avec leur professeur de chant, leur papa. On le sait, chez la plupart des espèces, ce sont les mâles qui chantent. Et on s'est rendu compte alors que les mâles juvéniles chantaient d'une manière complètement différente des adultes de l'espèce. Il leur faut un tuteur de chant pour bien vocaliser. Puis comme au jeu du téléphone, Sophie André, d'une génération d'oiseaux à l'autre, il y a des petits changements qui sont introduits dans le message. Une équipe américaine s'est penchée sur cette transmission du chant en étudiant les fameux pinsons de Darwin sur les îles Galapagos.
Encore ces pinsons dont Darwin s'est servi à comparer leur bec pour élaborer sa fameuse théorie de l'évolution.
En effet, maintenant, des scientifiques se concentrent sur le chant de ces pinsons. Les mâles chantent le même chant toute leur vie durant pour marquer leur territoire, mais surtout pour courtiser les femelles. Mais d'un mâle à l'autre, le chant diffère légèrement. Je vous fais entendre une série de 10 vocalisations de pinsons. Vous pourrez noter des petites différences entre chacune.
Oui, on voit des petites différences, Mathieu.
Oui, des petites différences. Jeffrey Podas et Evan Goodale avaient accès à des enregistrements de chants de pinsons mâles des îles Galapagos datant de 1961. Les chercheurs sont retournés au même endroit 40 ans plus tard, en ont enregistré de nouveau et les ont comparés à ceux de 1961. Et surprise, plusieurs chants étaient les mêmes qu'en 61, alors qu'on s'attendait à entendre une toute nouvelle palette de chants. Je vous invite à écouter Jeffrey Podas, professeur de biologie à l'Université du Massachusetts.
I started to look at these songs and comparing them to the songs that I had recorded in 1999, some almost 40 years later. There was a couple of things that really jumped out, and the first one was that when we look at some of the song types, they looked almost.
Lorsque j'ai comparé les chants de 1961 à ceux que j'ai enregistrés en 1999, presque 40 ans plus tard, une chose m'a sauté aux yeux. Certains types de chants étaient pratiquement les mêmes. C'était très surprenant et ça nous a donné l'idée de comparer les chants de façon méthodique avec des analyses statistiques.
These finches to have maintained their structure over so many years, because we know that these birds learn their songs like many other songbirds.
On ne s'attendait pas à retrouver la même structure dans le chant de ces pinsons après tant d'années, puisqu'ils apprennent leur chant de leur père, comme plusieurs autres oiseaux chanteurs. Leur chant n'est pas inscrit dans leur tête à la naissance. Il faut qu'ils entendent d'autres mâles pour apprendre correctement le chant et le transmettre à leur tour. Mais on sait que le processus n'est pas parfait. Les erreurs de copie sont introduites par-ci, par-là, assez souvent. Donc, en 40 ans, ce qui représente de 10 à 30 générations de pinsons, il est très surprenant de voir des chants conservés de façon aussi exacte.
It was surprising to us that the accuracy would have been maintained for over so many generations.
Jeffrey Podas, professeur de biologie à l'Université du Massachusetts. Alors, Mathieu, il semble que le mécanisme du maintien du chant au fil des générations, c'est pas encore tout à fait compris.
Mm-hmm. Surtout que chez certaines espèces, comme notre petite mésange à tête noire, tous les oiseaux chantent exactement le même chant d'un océan à l'autre, alors que des espèces comme le moqueur polyglotte peuvent avoir des dizaines de chants différents.
Ah oui.
Donc, pour comprendre un peu mieux ce mécanisme de transmission du chant, je suis allé m'entretenir avec Louis Lefebvre, professeur de biologie à l'Université McGill et spécialiste du comportement chez les oiseaux.
Il y a des espèces qui apprennent leur chant seulement quand elles sont toutes jeunes. Mais il y a d'autres espèces comme les serins, les canaries, qui, elles, continuent à apprendre le chant tout au cours de leur vie, modifient leur chant à chaque printemps pour incorporer des nouvelles notes dans le chant selon le voisinage autour d'elles. Mais chez beaucoup d'espèces, il y a uniquement dans l'enfance qu'on apprend le chant. Et c'est en apprenant le chant de notre père la plupart du temps et en le produisant lorsqu'on s'est développé puis qu'on est maintenant un adulte que maintenant on transmet ce chant-là à nos descendants. Et donc la question c'est, est-ce qu'un oiseau va reproduire exactement 100% du chant de son père ou s'il va avoir une petite différence entre son chant puis le chant de son père? Imaginez que cette différence-là, c'est 2%. Donc, il est presque comme son père, mais il y a des petites différences. Là, après ça, son fils à lui, il y a 2% de différence. Et là, après ça, le fils de l'autre, 2% de différence. Ça veut dire qu'avec le temps, le chant qu'on entendait à un moment donné, qui était le chant des grands-pères, ça ne sera plus pareil dans la population. Tous les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils vont avoir légèrement changé quelque chose, ce qui fait que le chant, à un moment donné, va être différent du chant qu'on avait à cet endroit-là 10 ans avant. Si le chant diffère dans le temps, il diffère dans l'espace aussi. C'est-à-dire que l'imitation du chant des pères va se faire différemment d'une région à l'autre. Ce qui fait que les oiseaux, comme les humains, vont avoir ce qu'on appelle un dialecte. C'est-à-dire que tu vas avoir un accent différent si tu viens du nord de la Californie versus le sud de la Californie, et chez les pinsons, et chez les bruants, et chez les humains. Donc, c'est le même phénomène des dialectes. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que le chant donne comme information? S'il donne une information qui est absolument nécessaire, à ce moment-là, on ne s'attendrait pas à ce qu'il change. Mais si les mots, les notes du chant n'ont aucun sens, si dans le fond l'oiseau il est en train de chanter quelque chose où les notes individuelles ne veulent rien dire, à ce moment-là, ça peut changer. Si dans le fond chaque fils copie 98% du chant de son père, c'est inévitable que ça change. La question, c'est qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? C'est ça que les Podas et Goodale ont trouvé. Il y a des chants qui ne changent pas, il y a des chants qui changent. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que c'est le hasard? Il y a des gens qui pensent que c'est le hasard, que les chants vont changer simplement parce qu'il va y avoir des erreurs de copie, et chaque fils va reproduire à 98% le chant de son père. Donc, il y a une partie qui reste pareil, il y a une partie qui change, mais on n'apprend rien en se posant la question, ça c'est resté pareil, ça, ça a changé. Il y a d'autres qui pensent que le mâle ne peut pas chanter n'importe quoi, que la femelle va être intéressée s'il chante quelque chose qui s'approche de telle chose. À ce moment-là, ça veut dire que le changement arrivera beaucoup moins et ce qui a changé est peut-être moins important que ce qui n'a pas changé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une énorme signification au changement que votre nom, par exemple, Mathieu, a eu entre aujourd'hui et la façon qu'on le disait, qu'on le prononçait, qu'on l'appelait il y a 500 ans, au fait que dans d'autres langues latines, ça ressemble à Mathieu, mais ce n'est pas tout à fait Mathieu? Il y a ça qui est important. Il y a des mots qui, quand ils changent, c'est grave. Il y a des mots qui, quand ils changent, c'est pas grave. C'est la même chose pour le langage humain puis le chant des oiseaux.
Effectivement, le mâle ne peut pas chanter n'importe quoi, Mathieu. Il semble que les préférences de madame, ils soient pour quelque chose dans toute cette histoire.
Oui, le mâle chante pour défendre son territoire, signaler sa présence, mais surtout pour faire la cour. Et les femelles sont plutôt conventionnelles dans ce qu'elles recherchent, ce qui expliquerait pourquoi certains chants restent les mêmes au fil des générations. On écoute encore une fois Louis Lefebvre.
Le chant, c'est comme le plumage quand on regarde la queue du paon ou la couleur rouge des cardinaux. C'est des indices, c'est des traits que les oiseaux ont qui servent à attirer les femelles et donc qui traversent les différentes générations en étant plus ou moins exagérés à travers la sélection sexuelle, qui fait que les mâles avec le chant le plus complexe, les paons avec la queue la plus spectaculaire, les cardinaux avec la poitrine la plus rouge, c'est ceux qui sont préférés par les femelles, entre autres parce que c'est un indice de qualité de l'individu, cette capacité-là de produire des signaux exagérés. Si la fonction du chant, c'est d'attirer les femelles, ça veut dire que l'évolution du chant ne se fait pas par un processus qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de survivre mieux et avoir plus de descendants qui survivent aussi parce qu'on fait telle chose plutôt que telle autre, mais est-ce qu'on va avoir plus de partenaires et donc plus de descendants par ces partenaires-là en attirant plus sexuellement les femelles, par exemple? Chez les oiseaux, c'est la plupart du temps les mâles qui chantent et les femelles qui écoutent le chant pour décider avec quel mâle elles vont s'accoupler. Et là, c'est là où les femelles disent, lui, ce chant-là est plus compliqué. L'autre, le chant est plus simple. Il s'agit de poser la question, pourquoi le chant est plus compliqué et donc plus mélodieux ou a plus de variantes, plus de notes chez un individu plutôt qu'un autre. Puis là, il faut regarder dans son enfance. Dans son enfance, normalement, cet individu-là a eu moins de maladies, moins de parasites et a été nourri de façon plus abondante par ses parents. Donc, il y a eu une enfance plus souple, plus facile à vivre. Et donc, il y a eu le temps et l'énergie pour bien apprendre le chant de son père et ensuite le pratiquer jusqu'à l'année d'après où c'est à son tour maintenant de se reproduire puis il est devenu un adulte. Donc, on pense qu'en partie, ça reflète le développement, mais le développement aussi, ce que ça reflète, c'est le genre de génétique qu'on a. Si on a des gènes du système immunitaire qui nous permettent de bien combattre les maladies et les vers intestinaux, par exemple, à ce moment-là, on va avoir un champ plus compliqué parce qu'on a été moins souvent malade. Donc, la femelle, si elle choisit le chant du mâle numéro 1, parce qu'il est plus compliqué, est en train de choisir un mâle qui a eu une enfance plus facile, entre autres parce qu'il y a eu des parents plus performants, et il y a probablement une génétique qui est meilleure pour combattre les maladies et combattre toutes sortes d'autres problèmes qu'on peut avoir en grandissant. Donc, il y a un aspect, le chant sert de mécanisme d'évaluation de d'autres choses que simplement le chant. Donc, on n'évalue pas le chant, on évalue le chanteur.
Alors, c'est bien, on voit que les oiseaux peuvent apprendre des chants, bien les apprendre, les transmettre aussi. Mais Mathieu, est-ce que les oiseaux peuvent apprendre d'autres comportements?
Oui, Sophie-André, par exemple, savoir ce qui est bon à manger, puis comment le trouver. Dans ce cas-là, les nouveaux comportements peuvent être avantageux et transmis à un groupe en particulier. On se retrouve alors avec une variation de comportement au sein d'une même espèce. Louis Lefebvre.
Chez les oiseaux, donc, on a dit qu'il y avait la sélection sexuelle qui peut changer le chant, mais il y a la sélection naturelle qui, elle, peut changer des comportements comme, mettons, les comportements alimentaires. Donc, il se peut que chez certains oiseaux, la sélection naturelle ait amené une capacité à modifier des comportements en observant les autres. Il y a un cas très célèbre en Angleterre, en 1921. Les gens ont commencé à voir les bouteilles de lait le matin qui étaient livrées sur le pas de porte, que ça avait été ouvert par des oiseaux. Et on s'est aperçu que les mésanges en Angleterre ouvraient les bouteilles de lait. Alors, ça a été vu à un endroit en 1921. Après ça, on a commencé à en voir plus vers 1925. Puis à chaque année, c'est comme si on en voyait de plus en plus. Alors, les gens se sont dit, ça ressemble à un phénomène de transmission culturelle. Ça a commencé à une place. Puis là, en s'observant les uns les autres, les mésanges ont commencé à le faire un peu partout, mais en observant les mésanges qui avaient fait ça au début. Donc, on a confirmé avec des expériences que regarder ce que l'autre fait, ça peut influencer le changement d'un comportement puis faire que soit on mange les insectes sur l'écorce des arbres comme les mésanges traditionnels, ou qu'on vient sur le pas de porte de quelqu'un puis qu'on ouvre la bouteille de lait. Donc, le principe, c'est que l'ouverture des bouteilles de lait se faisait pas partout. Il y avait des places où la culture avait pris et il y avait des places où la culture n'avait pas pris. Et ce changement-là est en partie lié au fait que les oiseaux s'étaient observés les uns les autres. Donc, ça ressemble à ce qu'on appelle la culture chez les humains, qui fait qu'en s'observant les uns les autres, il y a des différences entre comment on fait les choses ici puis comment on fait les choses, mettons, en France.
Donc, quand on traite quelqu'un de cervelle d'oiseau, il faudrait peut-être y penser à deux fois.
Ça dépend qui vous traitez de cervelle d'oiseau. Peut-être, si vous voulez, raffiner l'insulte. Traiter la personne de cervelle d'autruche ou de cervelle de caille ou de cervelle de poulet, c'est juste. Mais il existe des perroquets, il existe des corneilles, il existe des calaos, il existe des pics qu'il ne faut jamais utiliser comme exemple de cervelle d'oiseau parce qu'eux autres ont des cervelles beaucoup plus grosses que celles signifiées dans l'insulte.
Louis Lefebvre, biologiste à l'Université McGill, spécialiste du comportement des oiseaux. Une très belle façon de clouer le bec de quelqu'un. Merci beaucoup, Mathieu Gobert.
Merci, Sophie-André.
Écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, la série 6 milliards d'espèces, une planète. Aujourd'hui, un fléau universel, les cyanobactéries.
La prolifération des cyanobactéries, c'est un problème partout dans le monde. Il y a des gros problèmes en Chine, en Amérique du Sud, au Canada aussi. Et on a vu ça, ça fait quelques années, surtout au Québec. Mais ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle question. C'est quelque chose qui est connu depuis les années 60, quand on a découvert que c'était vraiment le phosphore, l'enrichissement du phosphore dans les cours d'eau qui cause ce problème-là.
C'est l'heure du courrier des auditeurs et voici la question de saison que nous avons reçue sur notre répondeur.
Oui, bonjour, je suis Danielle Richard et voici ma question. Les métaux qui sont contenus dans les crèmes solaires sont-ils éliminés? Si oui, par quel organe et en combien de temps sont-ils éliminés? Merci beaucoup.
Alors, tous les dermatologues vous le diront, si vous allez au soleil, mieux vaut porter des vêtements longs ou encore un écran solaire parce que les risques de cancer de la peau sont importants. Ils sont bien connus, ils sont bien documentés. Ce qui l'est moins, ce sont les effets de certains produits contenus dans ces crèmes solaires et notamment les métaux. Alors, comme le disait notre auditrice, certaines crèmes contiennent de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane, des métaux qui servent d'écran physique. Alors, ces métaux sont-ils absorbés par l'organisme? Gaëlle Lucia Berdou a posé la question au docteur Régent Drouin, généticien à l'Université de Sherbrooke.
Sous la formulation actuelle, il n'y a pas d'absorption de ces métaux-là. Pour les nouvelles formulations au niveau des nanoparticules, donc c'est des particules beaucoup plus petites qui couvrent mieux la surface cutanée. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre aussi épais, ce qui fait qu'il n'y a pas l'apparence blanchâtre qu'a la peau lorsqu'on utilise les formulations actuelles. Par contre, même au niveau dans une peau intacte, normale, ces substances-là ne dépassent pas la couche cornée. Donc, restent au niveau de l'épiderme et relativement en surface.
Et il y a pourtant quand même des études qui soulèvent des questions sur les effets que pourraient avoir ces nanoparticules sur l'organisme?
Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inconnus encore. Comme j'ai dit, il n'y a pas de pénétration, donc ce qui fait que ça ne va pas dans le sang. Par contre, il y a la majorité des études qui ont été faites avec ces produits-là, soit in vitro, c'est-à-dire avec des cellules en culture, ou même avec des personnes, il n'y a aucune évidence de dommage aux gènes. Donc, le potentiel cancérigène est nul ou très, très faible. Et actuellement, on n'a pas vraiment d'évidence qu'il y a une augmentation de ces métaux-là dans le sang. Et puis, même si c'était le cas, il semble que c'est inerte et c'est éliminé relativement facilement par le rein. Donc, c'est pas vraiment une inquiétude actuellement. Et c'est très clair que ces considérations-là ne devraient pas empêcher les gens d'utiliser les écrans solaires.
Vous êtes intéressé dans une étude que vous avez publiée récemment à d'autres produits qui sont contenus dans des crèmes, pas nécessairement des crèmes solaires, mais des crèmes qu'on est censé pouvoir mettre justement quand on va au soleil quand même, donc des crèmes dites de jour, si on veut.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez regardé exactement?
On a regardé un produit qui est le phényl benzimidazole sulfonique acide, donc qu'on abrévie PBSA, qui est utilisé dans certaines crèmes par l'extérieur, a été utilisé pendant un certain temps à l'intérieur de certaines crèmes solaires. C'est une excellente substance pour bloquer les rayons de type UVB. Donc, ça va empêcher les principaux dommages qui sont causés par les UVB. Donc, ça va protéger contre les coups de soleil. Donc, ça fonctionne pour cet objectif-là. Par contre, lorsqu'on les expose soit aux UV de type B ou aux UV de type A, donc là, il y a une production de radicaux libres. Ce qui fait que les radicaux libres sont associés évidemment à un potentiel cancérigène important et aussi au vieillissement de la peau. Donc, l'objectif qui est d'avoir des crèmes de beauté dans les produits cosmétiques et de pouvoir aller au soleil sans trop de conséquences et de garder l'apparence jeune de la peau, à ce moment-là, l'objectif, selon moi, n'est pas atteint.
Donc, d'un côté, on nous dit, docteur Drouin, mettez de la crème solaire, protégez-vous du soleil parce que le soleil, c'est dangereux, ça cause des cancers de la peau, c'est assez fréquent. Et de l'autre, on a quand même quelques inquiétudes sur des produits contenus dans ces crèmes. Qu'est-ce qu'on fait?
Je pense qu'il faut y aller avec vraiment les écrans solaires qui sont bien testés. Comme j'ai dit, le produit qu'on a utilisé est pas utilisé dans les écrans solaires. Et en bout de ligne, je pense qu'il faut utiliser les écrans solaires, que ce soit les blocs physiques, donc celles qui contiennent de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane. Et je pense que les bénéfices d'utiliser les crèmes solaires dépassent largement les inconvénients.
Merci beaucoup, Dr. Drouin.
Mais vous êtes bienvenue.
Docteur Régent Drouin, généticien à l'Université de Sherbrooke. Donc, les produits contenus dans les crèmes solaires et dans les crèmes de jour soulèvent des questions, mais ce ne sont pas les seules. À preuve, cette autre question déposée dans notre répondeur.
Bonjour, je m'appelle Suzy de Mirabel. J'aimerais savoir s'il y a des études prouvant que l'utilisation à court ou à long terme des crèmes anti-rides risque de causer le cancer de la peau. Selon un documentaire, ces crèmes semblent gonfler les cellules de la peau. Ces modifications touchant la cellule ne sont-elles pas dommageables? Merci beaucoup.
Les travaux auxquels notre auditrice ferait vraisemblablement référence sont ceux du docteur François Marceau, chercheur au Centre hospitalier universitaire de Québec. Il a publié en 2007 une étude sur certains produits contenus dans ses crèmes anti-rides. Gaëlle Lucia Berdou l'a contacté.
Premièrement, on doit dire qu'il y a plusieurs ingrédients possibles dans les crèmes anti-rides. Les ingrédients que nous avons étudiés sont ce qu'on appelle techniquement des amines tertiaires. Et ces agents-là se concentrent dans les compartiments acides de la cellule et les font gonfler en faisant un appel d'eau. Donc, ça explique pourquoi certaines des crèmes agissent très vite, par exemple en une heure ou en quelques heures, parce que il y a une expansion cellulaire dans l'épiderme en particulier.
Donc, littéralement, ça fait gonfler les cellules, donc c'est un peu comme si la peau enflait un peu et ça fait forcément disparaître les rides?
C'est ça. Donc, c'est notre interprétation. L'apparence de rides décroît parce qu'il y a une espèce de comblement de la ride.
Et est-ce que c'est un effet permanent?
Non, c'est un effet qui existe tant que le produit chimique est à concentration suffisante.
Et est-ce que ça a d'autres effets sur les cellules que vous avez pu observer?
Ce qu'on a observé, par exemple, c'est un arrêt de la division cellulaire et c'est un peu préoccupant.
Donc, les cellules cessent de se diviser?
Oui.
Et c'est préoccupant pourquoi?
Il ne faut pas alarmer inutilement le public. Le risque de ces produits-là n'est probablement pas grand, mais à notre point de vue, il n'est pas bien mesuré. Le genre d'interaction que ça pourrait interagir avec des stresseurs, par exemple. Est-ce que ça accélère le vieillissement de la peau ou est-ce que ça a un effet défavorable quand on combine ça avec le soleil?
Donc, on ne parle pas nécessairement de cancer, comme nous le demandait notre auditrice?
Le cancer est hors de question. Les produits cosmétiques sont dans une liste approuvée par Santé Canada et il n'y a rien là-dedans qui cause le cancer. Cependant, ces produits-là causent des réponses biochimiques très importantes des cellules. Et à notre avis, ils devraient être considérés comme des médicaments, c'est-à-dire qu'ils devraient être étudiés en détail autant au point de vue des sciences fondamentales que des sciences cliniques. Actuellement, il y a des zones d'incertitude.
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous dites à votre mère, à votre sœur?
De ne pas les utiliser, tout simplement. Je ne suis pas un dermatologue, mais la plupart des dermatologues n'ont pas une grande estime pour les cosmétiques, sauf les écrans solaires.
Donc, faute de connaissances, vous suggérez de les éviter?
Oui.
Merci beaucoup, Dr. Marceau.
Je vous en prie.
Gaëlle Lucia Berdoux interviewait François Marceau, docteur François Marceau, chercheur au Centre hospitalier universitaire de Québec. Alors, vous avez, vous aussi, des questions de nature scientifique. Vous pouvez nous les poser par téléphone en composant depuis la région de Montréal le 514-597-6166. De l'extérieur de Montréal, vous composez le 1-800-752-9050. Vous pouvez aussi nous poser vos questions via courriel à l'adresse suivante, lumière@radio-canada. Maintenant, on rappelle la chronique des années-lumière avec Yannick Villedieu.
La chronique avec cette semaine Laurent Drissen, astrophysicien à l'Université Laval à Québec. Bonjour Laurent.
Bonjour Yannick.
Une chronique, Laurent, dans laquelle vous allez nous raconter que les astronomes peuvent voir en même temps deux événements astronomiques séparés par plus de 3 siècles. C'est le chapeau du magicien, ça?
Oui.
Oui.
Oui. Ben, en fait, c'est dû au fait que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. La vitesse de la lumière, bon, c'est 300 000 km par seconde. Ça, oui, paraît beaucoup, mais en fait, à l'échelle astronomique, c'est relativement lent. Et ça nous permet de faire des choses assez intéressantes qu'on va voir.
Alors, les deux événements, c'est quoi?
Alors, les deux événements, c'est l'explosion d'une étoile, l'explosion d'une supernova.
Oui.
Et ce qu'il reste de cette explosion d'étoile 300 ans plus tard. Et c'est ça qui est intéressant. Outre le fait que le résultat scientifique en tant que tel est intéressant, on le verra tout à l'heure, c'est le concept même, comme vous le disiez, de pouvoir voir simultanément deux événements qui sont reliés par un lien causal, mais qui sont séparés par 300 ans à peu près, et de les voir simultanément.
Oui, alors l'étoile en question, c'est?
Bon, on parle de Cassiopée A.
Oui.
Cassiopée A, c'est ce qu'on appelle un rémanent ou un reste de supernova. C'est une espèce de coquille de gaz assez filamenteuse qui est le résultat de l'explosion d'une étoile.
Oui.
Alors, Cassiopée A, c'est un objet qui est très étudié. On en connaît, en fait, c'est la source radio, d'émission radio la plus brillante du ciel. C'est une source de rayons X, c'est une source de rayonnement visible. Donc, c'est un objet qui est très, très bien connu.
Oui, qui est proche de nous, qui est dans notre galaxie.
Qui est dans notre galaxie, oui. Donc, c'est un objet qui est très proche. On voit les détails de façon assez fine. Et, bon, c'est une coquille filamenteuse dont on sait que la composition chimique est particulière. Il y a des éléments très lourds comme le nickel ou le soufre. La densité est très élevée, température qui peut atteindre des millions de degrés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on regarde Cassiopée A à différents moments, séparés de quelques années, on se rend compte que le gaz se déplace.
Oui.
Donc, c'est une enveloppe qui est en une espèce de coquille qui est en expansion. À des milliers de kilomètres par seconde, on a noté certaines composantes de gaz qui allaient jusqu'à 6000 kilomètres par seconde.
Et quand on parle, vous dites un événement qui a lieu il y a environ 300 ans, c'est donc un événement qu'on a observé, qu'on a répertorié à l'époque.
C'est ça qui est étonnant.
Parce qu'il y en a dans l'histoire des observations. Hein,
Oui, ben, on pense par exemple à la supernova de 1572, qui a été très très bien documentée par Tycho Brahe,
oui.
Ou celle de 1614. Par Kepler, ce sont des étoiles qui atteignent des luminosités très proches de celles de Vénus, par exemple, qui sont très, très brillantes pendant des mois et des mois. Mais celle qui a donné lieu à Cassiopée n'a pas été si spectaculaire que ça. Du moins, on n'a pas
Personne ne rapporte l'avoir vue à ce moment-là.
Exactement. Et ça, c'est étonnant. Si jamais on regarde les espèces de filaments qui se déplacent, qu'on refait le film à l'envers, qu'on repasse le film à l'envers, l'explosion de l'étoile aurait dû être observée vers 1680 environ, ce qui n'a pas été le cas.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on a parlé au début de deux événements qu'on regardait en même temps.
Oui. Donc, à l'époque, personne ou presque ne l'a vu. Surtout, il n'y avait pas de spectrographe pour nous indiquer de quel type d'étoile il s'agissait. Mmh. Alors, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des échos. Ce qu'on a détecté il y a quelques mois, ce qu'on appelle des échos. La lumière qui est émise par la supernova, et là on parle centaines de millions de fois la luminosité du Soleil, cette lumière-là, elle est répartie dans toutes les directions de la galaxie.
Comme une explosion le ferait, donc.
Exactement. Donc quand la lumière passe par la Terre, on peut l'observer. Si on ne l'a pas fait, c'est trop tard en principe. Mais cette lumière-là, elle continue de se propager dans la Voie lactée.
Oui.
Et la Voie lactée est riche en ce qu'on appelle de la poussière. Ça, c'est des grains de silicate ou de carbone qui sont entourés d'une couche de glace. Et cette poussière-là permet de diffuser la lumière dans d'autres directions. Un petit peu comme les montagnes dans une vallée, vous savez, vous criez, puis là, tout d'un coup, on entend l'écho, ça fait de l'écho. Là, c'est la même chose, la lumière est émise dans toutes les directions, et ce qu'on a observé, c'est la réflexion de cette lumière.
L'écho de la lumière,
L'écho de la lumière sur des couches de poussière du milieu interstellaire.
Et qui nous revient, cet écho, vers la Terre.
Exactement, avec un délai de 300 ans environ.
Voilà.
Et bon, voir la lumière, c'est intéressant. C'est donc l'explosion elle-même qu'on voit par réflexion. Mais c'est encore plus intéressant d'en obtenir le spectre.
Oui, et qu'est-ce que ça nous apprend, donc, le spectre de Cassiopée A, donc, cette supernova qu'on aurait dû observer il y a 300 et quelques années?
La qualité du spectre est excellente. Elle a été obtenue avec le télescope Subaru. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit des raies de calcium, des raies spectrales de calcium, de sodium, d'oxygène, un petit peu d'hydrogène. Et ça, c'est tout à fait caractéristique d'un certain type de supernova. C'est-à-dire que l'étoile qui a explosé, que l'on voit maintenant exploser, c'était ce qu'on appelle une supergéante rouge, qui avait perdu la plupart de son enveloppe d'hydrogène. Ce qu'on peut remarquer aussi d'après le spectre qu'on voit aujourd'hui, c'est que le gaz a été éjecté à des vitesses assez fabuleuses d'environ 11 000 km par seconde.
Oui, oui, oui.
Et en comparant avec la vitesse de l'éjecta actuelle, que l'on observe actuellement 300 ans plus tard, qui est d'environ 6 000 km par seconde, on se rend compte que la matière a donc dû être ralentie lors de l'explosion.
Donc c'est une sorte d'étude post-mortem d'une supernova que vous faites en regardant les fameux échos?
À l'échelle humaine, c'est un petit peu comme si on pouvait observer la naissance d'un enfant simultanément avec le comportement du vieillard que cet enfant est devenu, je ne sais pas, 90 ans plus tard.
Je disais vraiment, vous êtes des magiciens, des astronomes, des astrophysiciens.
Oui.
Donc, des choses tout à fait merveilleuses. Laurent Drissen, merci beaucoup.
Merci Yannick.
Au revoir.
Au revoir.
C'est tout pour la première heure des Années-Lumière. Ne manquez pas ce soir à 18h30 à la télévision de Radio-Canada l'émission Découverte, entre autres sujets, les marais côtiers des systèmes épurateurs naturels entre la Terre et la mer. Mais d'ici là, restez des nôtres à la radio. Les Années-Lumière se poursuivent après le bulletin de nouvelles. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, ici Sophie André Blondin pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique au menu de cette deuxième heure, la biodiversité à l'honneur avec la poursuite de notre série estivale. Chantal Srivastava, cette semaine, nous mène sur la piste des lacs, de l'eau douce et du phytoplancton. Et puis, en rappel, notre grande rencontre avec le romancier, poète, musicien et artiste Jean-Pierre Luminet. Ah oui, il est astrophysicien aussi. Il sera question d'art, de science, de lettres avec celui qui aime le ciel pour son potentiel d'étonnement et son potentiel poétique. Mais tout d'abord, la série des années-lumière. Six milliards d'espèces, une planète. La Terre pourrait compter 6 milliards d'espèces vivantes différentes. Des animaux, bien sûr, des plantes, mais aussi et pour beaucoup des micro-organismes invisibles, mais essentiels à la vie. Pour souligner l'année mondiale de la biodiversité, nous diffusons aux années-lumière tout l'été une série de reportages dans lesquels nous allons à la rencontre des scientifiques qui, sur le terrain, étudient différentes espèces, étudient différents habitats. Aujourd'hui, nous partons en canot avec Chantal Srivastava et la biologiste Béatrix Besner. Elle est professeure à l'Université du Québec à Montréal. Elle est spécialiste du phytoplancton et de l'écologie des lacs. Nous les retrouvons au lac Croche de la station de biologie des Laurentides, au nord de Montréal.
On saute sur le lac Croche. Une belle forêt autour. Beaucoup de roches. Vraiment un lac typique des boucliers canadiens. Beaucoup de granit. Bel lac calme aujourd'hui. On va au centre du lac, où on a un quai qu'on utilise pour échantillonner ce bassin-ci. Nous, on va prendre des échantillons de phytoplancton qui sont à la base du chêne trophique du lac. C'est des petites plantes microscopiques et qui sont mangées par les zooplanctons, qui sont le deuxième niveau trophique. Ce sont des herbivores qui, eux, alimentent les poissons. Alors, c'est vraiment la base du chêne trophique qu'on va étudier ici pour mieux comprendre c'est quoi les espèces qui se retrouvent, c'est quoi les facteurs environnementaux qui les influencent.
La chaîne trophique, ça c'est la chaîne alimentaire?
C'est ça, oui. On parle des niveaux trophiques dans la chaîne qui inclut les plantes à la base, les phytoplanctons, les herbivores dans les lacs, c'est les zooplanctons. Les zooplanctons sont un peu comme les vaches qu'on retrouve dans les terrains terrestres. En fait, c'est le même type de communauté qu'on retrouve dans les mers et l'océan. Sauf qu'ils sont un peu plus connus, peut-être dans l'océan que dans les lacs, mais ils sont aussi présentes et plus diverses dans les lacs, même que dans l'océan. Ici, on a une expérience où on étudie le rôle du profondeur du thermocline. Alors, les lacs dans ces régions ici, partout dans le Canada, au nord des États-Unis, se forment un thermocline à chaque été. Et c'est une couche d'eau chaude à la surface et d'eau plus froide au fond. Et le placement de ce thermocline-là, ça peut jouer beaucoup dans la biologie et l'écologie des espèces qui s'y retrouvent. Alors, nous, on fait une expérience. Dans un des bassins ici, on abaisse le thermocline pour voir les effets sur les communautés. Alors, on vient ici chaque semaine échantillonner pour voir s'il y a un effet important d'une thermocline qui se retrouve naturellement à 3 mètres de profondeur où on peut peut-être le sentir avec les pieds quand on nage. Et le contraste avec un bassin où on la baisse jusqu'à 7-8 mètres de profondeur. Et c'est la troisième année de l'étude et on a déjà trouvé qu'il y a des gros effets sur la diversité, la composition en espèces. Et ceci est important pour deux raisons. Ça a rapport avec des changements climatiques, parce que les changements climatiques, ça va jouer avec la profondeur des thermoclines, parce que ça change le patron de réchauffement. Mais aussi, ça joue dans les études qui servent à comprendre mieux c'est quoi l'effet d'aménagement, des différents aménagements du terrain autour des lacs. Alors, la foresterie, par exemple, en enlevant beaucoup d'arbres, ça va jouer un rôle ajoutant beaucoup plus de vent au lac qui va abaisser le thermocline d'un lac. Ou même des feux de forêt, ça peut avoir le même effet. Alors, c'est un peu dans cette question-là qu'on fait cette expérience ici. Et voici notre équipe. Hey! On n'a pas de chaloupe! On a été forcés de faire la façon canadienne. Non, c'est bon en fait. C'est plus facile comme ça avec
le moteur.
Est-ce que vous échantillez là-bas? Bon? Ok. Bon, peut-être que vous prenez les échantillons des eaux. C'est pour l'extraction de la cache pour l'enzyme. Ah, ok. Les enzymes. Alors, on arrive sur le quai avec tous les équipements. On est dans le deuxième bassin ici. Et c'est ça, l'équipe est en train de faire les échantillons. Robin a une sonde ici qu'il va utiliser pour mesurer en fait la profondeur du thermocline. Alors, c'est une sonde avec des senseurs de température, d'oxygène, de pH, de conductivité, qu'on va faire descendre dans l'eau. Et ça prend des mesures à chaque 50 cm. Et on peut avoir un profil de qu'est-ce qui a l'air de la colonne d'eau dans chacun des bassins. Bon, Joanna est en train de faire les échantillons de l'eau pour les expériences à cache.
Oui, pour l'enzyme.
Oui, alors là, on va mesurer c'est quoi le montant de production par les zooplanctons dans l'eau en utilisant une enzyme qui est présente dans l'eau. C'est vraiment une nouvelle technique qui a été développée par Akash, qui est un postdoc, qui travaille avec moi. Et c'est ça, il y a des façons de faire des incubations avec ça pour mesurer c'est quoi le montant. Parce que les zooplanctons sont des crustacés. Ça veut dire qu'ils sont comme des crabes ou des homards. Ils ont besoin de changer leur exosquelette de temps en temps quand ils veulent agrandir. Alors, quand ils font ça, ils vont relâcher l'ancienne et il y a des enzymes associées avec la nouvelle exosquelette qui va être présente dans l'eau. Et c'est ça qu'on mesure avec ça. Alors, ce n'est pas seulement la communauté et la biodiversité en communauté, mais aussi la production, tous les effets plus écosystémiques, plus à plus grande échelle qu'on étudie, et ces liens importants entre ces choses-là. Parce que, c'est ça, on connaît que la diversité est importante pour plusieurs raisons, et on explore un peu c'est quoi les effets. Joanna, ça c'est... Alors, c'est pour les nutriments, ça?
Ce que nous, on a rempli tout aujourd'hui, c'est pour les phytophthames, pour mesurer, dans le fond,
la production primaire.
La production primaire. Puis, je remplis aussi le pic de chlorophylle que je vois avec le fluoropro le matin. Okay. C'est ça, l'après-midi, on va faire les nutriments aussi avec la pompe.
Ouais, OK. Alors, après tout ça, on va retourner au labo de la station et faire beaucoup de filtration.
Avec tout ça.
Tout ça.
Non, ça, c'est surtout avec, dans le fond, le phytopam qu'on voit la production primaire, mais on a 3 heures ou 4 heures de filtration.
Oui. C'est bon qu'on mange le souper ici.
Oui.
On a 3-4 glaciers pleins d'échantillons, pleins d'eau.
Oui, ça, c'est plein aussi.
Oui. Il y a un manque à remplir, là, mais...
C'est bien. Je peux continuer. Sauf il annonce la pluie aujourd'hui. On déteste la pluie avec les équipements électroniques. C'est vraiment l'enfer. Ouais.
Béatrice Besner, donc le phytoplancton, on ne le voit pas, mais il joue un rôle crucial. Est-ce qu'il est menacé? Est-ce que sa diversité s'érode à cause de la pollution, à cause des aménagements inadéquats?
Je dirais que c'est surtout à cause de ces raisons-là que ça se nuit. Parce que c'est certain, c'est une diversité très, très large dans la plupart des lacs. Mais quand on voit une diminution, c'est parce qu'il y a un ou certaines espèces qui vont prendre la relève, qui vont dominer le système.
On entend souvent parler des algues bleues-vertes, donc les cyanobactéries. Il s'agit de phytoplancton également?
Oui, eux, c'est un groupe un peu étrange. Leur nom scientifique, c'est les cyanobactéries. C'est-à-dire, ce sont des bactéries parce qu'ils n'ont pas de noyau dans leurs cellules comme les autres bactéries, mais sont des phytoplanctons aussi parce qu'ils font la photosynthèse. Alors, c'est pour ça que c'est un groupe qui est un peu entre les deux. Alors, mais ils sont considérés comme une partie du phytoplancton aussi. Et un groupe très important, c'est certain, parce que ça affecte les cours d'eau pour la natation, pour l'alimentation aussi. Et là, on parle comme un débalancement de l'écosystème. Et c'est souvent les cyanobactéries qui vont faire ça à cause des effets des humains. Surtout dans les cours d'eau, sur les rives, la pollution organique qui touche à ces communautés-là.
Alors. Et ça, c'est un problème qui est en augmentation. On parle beaucoup de cyanobactéries, mais partout, donc, les communautés de phytoplancton perdent en diversité?
Oui, mais la prolifération des cyanobactéries, c'est un problème partout dans le monde. Il y a des gros problèmes en Chine, en Amérique du Sud, au Canada aussi. Et on a vu ça fait quelques années, surtout au Québec. Mais ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle question. C'est quelque chose qui est connu depuis les années 60, quand on a découvert que c'était vraiment le phosphore, l'enrichissement du phosphore dans les cours d'eau qui cause ce problème-là. L'azote, ça joue un rôle aussi. C'est moins compris, mais c'est certain que tous ces détergents-là, ces produits, ces polluants-là, ça affecte ce débalancement et le fait que les cyanobactéries vont dominer. Dans les dernières années, je dirais depuis 2008, on a peut-être moins entendu de ce problème-là, mais ça ne veut pas dire que c'est disparu, c'est encore là. C'est juste qu'on a été un peu chanceux avec les étés qu'on a eus, qu'ils étaient un peu plus froids et peut-être moins ensoleillés que d'avant. Et les cyanobactéries ont besoin vraiment d'une période calme et beaucoup de soleil pour proliférer. Alors, c'est aussi des conditions environnementales qui vont jouer là-dedans. C'est certain, c'est pas seulement la pollution, c'est aussi les conditions. Alors, si on a un été chaud et ensoleillé, ça se peut qu'on verra le problème encore d'une façon majeure. Aussi, on a eu des automnes plus chaudes et plus ensoleillées, et ça se peut aussi que le problème a été poussé un peu plus loin dans l'été, vers l'automne, et que ça nuit moins aux plaisances des gens qui passent peut-être moins de temps à leur chalet au mois de septembre.
On entend beaucoup parler d'algues bleues vertes, mais également d'eutrophisation des lacs. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de ce phénomène-là?
Mais l'eutrophisation, c'est un effet naturel qui arrive au lac aussi. C'est un effet de devenir plus âgé. Alors, c'est un autre mot pour ça. Mais avec l'âge, les lacs vont se remplir, finalement. Parce que au cours du temps, il y a du ruissellement sur la terre qui va apporter des sédiments au lac. Et finalement, ça va finir par se remplir. Mais normalement, ça prend des milliers d'années pour faire ça. Quand on parle de l'eutrophisation, on donne souvent un adjectif qui est eutrophisation anthropique. C'est parce que c'est le même phénomène, mais accéléré à cause de l'action des gens. Et c'est surtout les actions des gens sur les rives des lacs qui va causer ça. Ça veut dire qu'il y a plus de sédiments qui arrivent au lac, plus de polluants, qui sont associés souvent avec des sédiments, avec de la terre, les polluants. Alors, par exemple, beaucoup d'agriculture autour d'un lac ou peu de forêt, ça peut apporter plus de ces nutriments, ces polluants organiques-là à un lac, qui veut dire que le processus est accéléré.
C'est une mort prématurée, finalement.
Un peu, oui, c'est ça.
Et donc, le lac, la vie prolifère avant de s'éteindre complètement?
C'est ça. Alors, la vie, ça va proliférer d'une façon énorme. Et c'est ça qu'on voit un peu avec les cyanobactéries. On voit une prolifération très importante. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est important de considérer aussi que toute cette biomasse-là, ça va se décomposer à un moment. Et la décomposition, ça va toujours utiliser de l'oxygène qui va nuire à la vie, qui a besoin de l'oxygène, par exemple les poissons, les zooplanctons, les autres animaux qui vivent dans les lacs.
Béatrice Besner, vous êtes biologiste. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner comme objet d'étude, à vous concentrer, à focusser donc sur le phytoplancton? Pourquoi le phytoplancton et pas les arbres, les poissons, les mammifères?
Oui, c'est une bonne question parce qu'au début, je savais, je voulais étudier les écosystèmes aquatiques. J'ai beaucoup d'affinités pour ces systèmes-là, mais je ne savais pas où aller. Et j'étais chanceuse de rencontrer un chercheur à l'Université de Calgary où j'ai fait ma maîtrise. Son nom est Ed McCauley. Et lui travaillait sur les planctons, les zooplanctons, qui sont les animaux, les phytoplanctons, qui sont les plantes. Et il m'a vraiment donné beaucoup j'ai eu beaucoup de plaisance parce que j'ai trouvé qu'avec les planctons, on peut tester beaucoup de questions plus théoriques en écologie. Surtout la question de biodiversité, là, on parle de beaucoup de théories qui se sont développées, mais qui sont difficiles à tester. Quand on parle d'une communauté d'arbres, ça va prendre au moins une centaine d'années pour avoir une nouvelle génération, pour voir c'est quoi vraiment les effets des interactions entre les espèces, la compétition, l'effet de la prédation. Tous ces effets-là, ça prend des décennies. Tandis qu'avec un comité de planctons, les phytoplanctons, il y a une nouvelle génération chaque 1 à 2 jours. Les zooplanctons, on parle peut-être d'une semaine à deux. Et dans un été, on peut avoir tout un changement de la communauté. On peut savoir vraiment à long terme c'est quoi l'effet de la compétition, de la prédation, toutes ces interactions écologiques. Alors, c'est ça qui m'a vraiment attirée. C'est cette question que je peux répondre avec un système naturel à des questions écologiques qui m'intéressaient beaucoup et qui sont vraiment à la base. Alors, c'est comme un système modèle qu'on peut utiliser pour tester des questions qui donnent comme un pont entre la théorie en soi et les écosystèmes naturels. C'est certain qu'il y a une différence entre un arbre et un phytoplancton, mais de la même façon, il y a des choses qui se transfèrent aussi.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on a pu apprendre en écologie justement parce qu'on a pu étudier finement et rapidement l'impact de divers gestes, divers phénomènes sur le phytoplancton?
Oui, je dirais une grande contribution, surtout avec les phytoplanctons, c'était faite dans le domaine de la compétition entre les espèces. Et c'était un chercheur, son nom est David Tillman, qui a travaillé beaucoup avec 2 à 3 espèces de phytoplancton dans le laboratoire, qui a étudié c'est quoi à long terme l'interaction entre 2 espèces. Il peut faire des prédictions basé sur leur écologie de base, sachant, par exemple, leur taux de reproduction, leur affinité pour des ressources. Et ensuite, pour le faire des prédictions et le tester avec ce système-là. Et on a beaucoup appris à propos de la compétition et comment ça marche d'une façon mécaniste entre les espèces à partir des phytoplanctons.
Et donc, la recherche est active. Il y a beaucoup de gens qui, comme vous, travaillent sur l'étude des phytoplanctons, des zooplanctons?
Oui, surtout parce qu'il y a ces problèmes de floraison. Dans les eaux douces, c'est surtout les cyanobactéries, mais dans le mer, par exemple, c'est les dinoflagellés qui vont causer des problèmes. C'est des marées rouges. Ça cause l'empoisonnement des moules. Il y a aussi des problèmes, mais avant le problème de mazout dans le golfe, il y avait vraiment un problème, on parlait d'une zone morte dans cette zone-là. Et c'était à cause du fait qu'il y avait beaucoup plus de décomposition que de production primaire par les phytoplanctons. Alors là aussi, il y a toute cette contrainte-là et de comprendre pourquoi il y a une zone morte là au lieu d'avoir une zone active, productive avec des phytoplanctons. Alors, dans toutes ces régions-là.
C'était avant le déversement dans le golfe du Mexique, donc on soupçonne que ça ne va pas s'améliorer par la suite.
C'est ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va faire, mais c'est certain que ça va avoir des gros, gros effets. Mais là, ça se peut que la question, c'est plus c'est quoi le mécanisme derrière la zone morte, et c'est plutôt c'est quoi l'effet de l'huile. Oui, qui est dommage.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, puis je soupçonne qu'il n'y a personne qui nous écoute présentement qui va pouvoir regarder un lac de la même manière après vous avoir entendu. Merci beaucoup, Béatrix Besnay.
Merci.
Un reportage de Chantal Srivastava. La semaine prochaine, dans notre série estivale sur la biodiversité, Gaëlle Lucia-Berdoux va rencontrer Robert Lavallée. Il cherche à comprendre et à contenir une espèce d'insecte envahissante, la grille du frêne. Mais maintenant, nous vous présentons en rappel une belle rencontre des années-lumière avec Jean-Pierre Luminet. Dans la vie, Jean-Pierre Luminet ne doit pas s'ennuyer. Il est astrophysicien, spécialiste des trous noirs. Il a proposé une théorie sur la forme de l'univers, théorie selon laquelle on vit dans un univers chiffonné. Il est aussi directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique à l'Observatoire de Paris, mais il y a plus encore. On lui doit pas moins de 16 livres scientifiques, 9 romans, des recueils de poésie, des œuvres visuelles aussi qui ont fait l'objet d'expositions. Et c'est à l'occasion de l'apparition de son livre de vulgarisation qui s'intitule « Bonne nouvelle des étoiles », c'est publié chez Odile Jacob, que Jean-Pierre Luminet avait fait un détour par nos studios. C'est là que j'ai pu parler avec lui d'étoiles, de galaxies, de musique, de peinture et même de rêves. Jean-Pierre Luminet, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous accueillir aux Années-Lumière.
Merci.
Vous venez nous parler de ce nouveau, tout nouveau livre, tout nouveau, tout chaud, Bonne nouvelle des étoiles. C'est votre 16e...
Un de plus.
Votre 16e livre scientifique, en plus des 8 romans que vous avez signés, des recueils de poésie là-dedans aussi. Les bonnes nouvelles des étoiles? Mm-hmm. Est-ce que les nouvelles sont bonnes quand elles viennent des étoiles?
Ben d'abord, j'adore l'écriture. Voilà. Et puis, j'adore donner des bonnes nouvelles. Moi, je suis pas du tout d'un tempérament plutôt optimiste. Alors, pourquoi les nouvelles qui viennent des étoiles sont bonnes? C'est vrai qu'un petit peu, je trouve qu'on vit un jour, en ce moment, dans un climat un petit peu morose. Quand on regarde à petite échelle les choses de la Terre, on parle des soucis. Il y a de réels soucis, la crise économique, le réchauffement climatique, tout ça, ça va pas très bien. Et dès qu'on prend un petit peu de recul, qu'on change d'échelle, et notamment, évidemment, avec le regard de l'astronomie, on s'aperçoit, on relativise les choses, bien entendu, et on s'aperçoit que finalement, qu'est-ce qui fait, peut-être, qu'est-ce qui peut donner du sens, de la grandeur à l'activité humaine aussi, ben, c'est de s'interroger sur des choses qui semblent nous dépasser. Et par exemple, dans quel univers on vit, dans quelle vastitude nous vivons, essayer de comprendre, de déchiffrer les mystères de l'univers. Donc, c'est une approche scientifique qui peut parfois toucher d'ailleurs aussi à une forme d'approche poétique et esthétique du cosmos. Et on fait aujourd'hui tellement de progrès dans cette compréhension, même s'il nous reste plein de choses à découvrir, c'est ça qui est intéressant pour un chercheur, mais on a fait aussi tellement de progrès grâce à nos nouveaux instruments, des télescopes, des accélérateurs de particules. Et puis grâce à nos théories, alors ça j'y tiens particulièrement parce que moi mon domaine,
vous venez de ce
c'est
domaine,
la théorie,
oui.
Voilà. Et donc les deux progressent ensemble, on les met, on les confronte et on dévoile peu à peu des choses qu'il y a 50 ans, on n'aurait jamais pensé que l'on puisse comprendre aussi bien finalement ce qui peut se passer au voisinage d'un trou noir, cerner les premiers milliardièmes de seconde, au voisinage de Big Bang, etc. Donc tout ça, je trouve que c'est enthousiasmant, la recherche des exoplanètes, d'une vie ailleurs dans l'univers, tout ça, des sujets donc, qu'on va peut-être un petit peu développer, c'est vraiment enthousiasmant. Donc finalement, ce qu'on reçoit des étoiles, des astres en général, ce sont des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que l'univers nous est en partie compréhensible et on arrive à soulever un peu le coin du voile.
Et ce qui est bon comme nouvelle aussi, c'est que ça suscite encore de l'enthousiasme et de la créativité pour aller y voir un peu plus loin, pour aller y voir mieux.
Oui, ça c'est bien. C'est vrai qu'on parle souvent, à juste titre, un peu de la désaffection chez les jeunes, des filières scientifiques, dans les études, à l'université. C'est vrai, mais ça ne touche pas encore, en tout cas, les sciences de l'univers, qui gardent aussi ce potentiel d'étonnement, et avec également un potentiel poétique derrière. Je veux dire, le ciel est beau, il pose beaucoup de questions. Et il y a aussi les grandes questions philosophiques, hein, les fameuses questions, voilà, d'où on vient, où on va, sommes-nous seuls dans l'univers? Ça garde un très fort pouvoir évocateur, et donc il y a encore beaucoup de jeunes qui lisent nos livres de vulgarisation et qui éventuellement un jour s'aventurent dans la difficile et longue itinéraire pour arriver éventuellement à devenir un professionnel de l'astrophysique.
Oui, parce qu'il y aura beaucoup de travail évidemment pour se rendre là, mais beaucoup de plaisir aussi. Vous l'avez dit, il y a encore des choses qui nous sont inconnues, il y a encore un grand potentiel de découverte, oui. Et ça à tous les niveaux. Votre livre, Jean-Pierre Luminet, vous le divisez en les nouvelles régionales, notre système solaire, les nouvelles nationales, notre galaxie, la Voie lactée, les nouvelles internationales, évidemment, l'univers. Et à tous ces niveaux-là, il y a encore des choses qui nous échappent, encore des choses à découvrir.
Oui, oui.
On ne sait pas tout de notre système solaire.
Oui. Alors, très important, effectivement, d'abord de parler de ces niveaux. En astronomie, on a toujours affaire à des échelles différentes. Alors, c'est vrai que l'échelle du système solaire, j'ai appelé donc l'échelle de la région de certaines façons, c'est une échelle finalement très différente de l'échelle de la galaxie et des étoiles, et puis après on passe aux très grandes échelles, et à chaque fois ce sont des problématiques différentes. Et dans chacune de ces fenêtres, finalement, il y a des progrès considérables et des questions que l'on n'arrive pas non plus à résoudre, ce qui est justement le moteur de l'interrogation scientifique. Alors, par exemple, à la première échelle, l'échelle de la région, c'est-à-dire le système solaire, le Soleil entouré de ses planètes, ses comètes, ses astéroïdes, etc. On en sait évidemment incroyablement plus qu'il y a 30 ans ou 40 ans, ne serait-ce que parce que on a eu... Là, c'est au moins la partie de l'univers que l'on peut explorer activement. Le reste, évidemment, on ne peut recevoir que passivement les informations venues de loin. On ne peut pas agir sur les astres. Au moins, dans le système solaire, on peut commencer à visiter le système solaire. On envoie des sondes spatiales qui se mettent en orbite. Il y en a même qui se posent sur des sols extraterrestres. Et donc, on sait plein de choses. Mais au-delà de ça, il y a encore plein de questions non résolues. L'une des questions peut-être les plus sensationnelles et les plus fascinantes dans le système solaire, c'est y a-t-il des conditions favorables au développement de la vie dans notre seul système solaire ? Il y en a sur la Terre, on le sait. Il y en a peut-être eu sur Mars dans le passé, des colonies de bactéries qui seraient fossiles aujourd'hui, parce que Mars est devenu quand même assez inhospitalier. Et un petit peu les rebondissements de ces dernières années, c'est qu'on s'est aperçu que déjà sur Terre, il y avait des formes de vie tout à fait étonnantes auxquelles on ne pensait pas il y a quelques décennies. On appelle ça les extrémophiles.
Oui, oui.
Voilà, donc ce sont des formes de vie, des bactéries en général, qui aiment les conditions extrêmes. Des bactéries qui vivent dans des geysers de soufre à 200 degrés, qui vivent sous 3000 mètres de vase, dans des lacs glacés de l'Antarctique, etc. Et donc, ce sont justement des conditions si extrêmes qu'on les retrouve ailleurs dans le système solaire. On les retrouve non seulement sur Mars, mais également sur quelques satellites de Jupiter et de Saturne. Alors du coup, on se dit, mais alors, prenons par exemple autour de Jupiter, il y a une belle lune qui s'appelle Europa. C'est une croûte glacée, une banquise d'eau, l'intérieur est chaud. Entre les deux, il doit y avoir un océan liquide, il y a de la chimie, du carbone, parce qu'il y a du carbone de partout, il y a une source d'énergie, donc pourquoi pas des formes de vie, des Européens, d'une certaine façon, si vous voulez, des bactéries, voilà, vivant, dans l'océan subglaciaire d'Europa, et pareil pour Encelade, qui est un satellite de Saturne, etc. Nous ne le savons pas encore, mais ce sont de nouvelles questions que l'on ne se posait pas il y a 20 ans, et ce qui est enthousiasmant, c'est de penser que peut-être, au cours de missions spatiales des prochaines décennies, on aura sous la main, d'une certaine façon, des formes de vie, non pas fossilisées depuis des milliards d'années, mais carrément contemporaines de nous.
Et c'est justement ces nouvelles questions, ces nouvelles candidates, planètes ou ces nouveaux satellites candidats au fait d'abriter peut-être maintenant, un jour plus tard ou jadis.
Ou dans le futur, effectivement.
Ou dans le futur, certaines formes de vie, parce que bon, la température, tout ça va changer, ça va changer aussi les conditions. Mais c'est un peu pour faire écho à ces nouvelles interrogations, à l'état des connaissances que vous publiez, Bonne Nouvelle des Étoiles, qui va rester bon jusqu'à quand?
Et voilà, bon, monde. C'est effectivement quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Là, j'ai fait une synthèse donc provisoire de ce que l'on peut dire en termes simples aujourd'hui sur l'univers. C'est vrai qu'à 20 ans, ça aurait été assez différent. Donc évidemment, il y a des parties communes, il y a des parties qui ne bougent pas. Et après, il y a des parties qui avancent. Et j'ai voulu en synthétiser avec mon co-auteur, il faut évidemment mentionner Elisa Brune, qui m'a aidé dans cette écriture. Je fais un petit peu la synthèse de... Bon, ça fait 30 ans que je fais des conférences. Bon, le plus souvent, j'ai fait des conférences sur les trous noirs, la cosmologie, un peu mes spécialités, et puis aussi sur tous les sujets de l'astronomie. Et je vois bien que l'on me pose constamment des questions sur la vie ailleurs dans l'univers, sur y compris des questions sur que vont être les futurs télescopes, les nouveaux moyens d'observation, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a au fond des trous noirs, comment on devient astronome, tout ça. Donc voilà, donc il y avait des sujets sur lesquels j'avais beaucoup écrit déjà, les trous noirs, la forme de l'univers, la cosmologie, le Big Bang, d'accord, mais finalement je n'avais jamais rien écrit sur ces autres questions, comment on devient astronome, quels sont les métiers de l'astronomie, quels sont les instruments aujourd'hui à notre disposition, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur, etc. Donc j'ai essayé de tout mettre ensemble et faire ce grand récit, les bonnes nouvelles des étoiles, où en fait on parle non seulement des étoiles, part du plus petit grain de poussière interplanétaire jusqu'à l'univers gigantesque dans son ensemble, y compris parfois on parlait de théories encore spéculatives sur un avant Big Bang, raccourcis d'espace-temps, etc.
Et vous avez dit que c'est votre livre le plus grand public parmi vos livres savants, parce que vous avez signé des romans aussi, et là public. Mais ça, c'est votre livre de vulgarisation scientifique le plus vulgarisé.
Et oui, nécessairement, puisque finalement, il n'est pas plus gros que les autres, hein. D'ailleurs, je ne sais plus, 250 pages, mais là, il y a toute l'astronomie qui est là-dedans. Forcément, c'est plus léger. Il y a beaucoup d'informations. C'est dense, mais je crois écrit avec une forme littéraire assez légère et facile à lire. Et donc du coup, je crois qu'effectivement, on ne rentre pas dans des détails compliqués. Et j'espère que ça peut susciter chez les jeunes quelques vocations supplémentaires.
Et chez les plus vieux, j'en témoigne, ça se lit comme un roman, effectivement. Alors, de l'autre côté d'une petite pause musicale, on va y aller justement dans vos zones de compétences un peu plus pointues. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, auteur, mais aussi, et ça on va en parler plus tard, artiste, poète. Jean-Pierre Luminet, il y a un astéroïde qui porte votre nom, en hommage à votre travaux en cosmologie, parce que vraiment votre domaine de prédilection, c'est la topographie, c'est la forme de l'univers.
Oui.
Cet astéroïde, alors... d'ailleurs, vous le voyez souvent, vous le regardez?
Non, il n'est pas visible à l'œil. Hein. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, parce que je ne suis pas astronome, je ne fais pas d'observation, etc. Mais je trouve que, bon, les astronomes qui découvrent les astéroïdes ont la possibilité de proposer des noms pour baptiser ces astéroïdes. Donc, on m'a offert cet astéroïde numéro 5523. Oui, pour mes travaux en cosmologie et sur les trous noirs, ce sont les deux domaines sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels je me suis fait un petit peu connaître. Voilà. Donc, notamment en cosmologie, au-delà des grandes interrogations sur le Big Bang, qu'est-ce que c'est exactement, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Plus spécifiquement, je me suis passionné depuis 15 ans, je continue évidemment, sur une question relative à la forme de l'univers. Alors, c'est une question que les enfants, même les gosses se posent parfois, monsieur, est-ce que l'univers, il est infini ou pas? Et alors, certaines personnes sont un peu effrayées par l'infini, parce que c'est vrai que ça n'arrête jamais, donc...
ça donne le vertige.
Ça peut donner le vertige. D'autres n'arrivent pas à concevoir que l'univers puisse être fini, ou alors s'ils croient que l'univers est fini, ils se disent mais alors il y a un bord, donc il est plongé dans quelque chose comme une sorte de ballon, et ça c'est une image totalement fausse. Donc il faut essayer de réellement expliquer tout cela, les différentes possibilités pertinentes aujourd'hui dans notre science moderne sur la taille et la forme de l'univers. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, j'ai écrit plusieurs livres et notamment j'ai inventé avec quelques collaborateurs un concept un peu original, effectivement, il faut bien le reconnaître, le concept d'univers chiffonné.
Bon, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'univers chiffonné?
Alors, ce sont des modèles mathématiques d'abord qui tentent de décrire la forme de notre vrai univers, qui seraient en fait des formes d'univers fini, pas infini, sans bord. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre.
Oui.
Hein, ça veut dire qu'un univers fini sans bord, vous filez droit devant vous, toujours en ligne droite, dans une fusée. Un jour, vous revenez éventuellement à votre point de départ et pourtant, vous n'avez jamais fait demi-tour. Et vous n'êtes jamais tombé dans le vide ou quoi que ce soit. Donc, mathématiquement, on montre que c'est parfaitement pertinent, cohérent. Il existe donc ce type de modèle d'espace. En plus, ce type d'espace fini sans bord, on peut faire des opérations bizarres dessus, les chiffonner. C'est un terme un peu métaphorique que j'utilise, mais mathématiquement, ça prend du sens. C'est-à-dire, finalement, dire que tel bout de l'espace, c'est le même, en fait, qu'un bout que l'on croit ailleurs, que l'on croit voir ailleurs. En fait, c'est la même région.
C'est un mirage, c'est une illusion.
Une sorte de mirage, exactement. Et donc, ces modèles d'univers chiffonné, je répète, tout à fait pertinents sur le plan des mathématiques, produiraient, si l'univers réel était comme cela, une gigantesque illusion d'optique, avec, en créant des images fantômes, des images multiples. Un peu, si vous voulez, comme si on vivait dans des pièces tapissées de miroirs qui démultiplient les rayons lumineux. Bon, alors évidemment, c'est plus compliqué que des pièces tapissées de miroirs, parce que justement, il n'y a pas de parois, ni de miroirs, mais c'est la forme très complexe chiffonnée de l'espace qui produirait ces illusions d'optique. Alors, au départ, ce qui semble être un jeu mathématique, et c'est vrai que c'était un petit peu très ludique de jongler avec ces espaces mathématiques, on s'est aperçu en 2003 que les données d'un satellite de la NASA qui s'appelait WMAP, qui cartographiait quelque chose de fondamental pour les cosmologistes, qui s'appelle rayonnement fossile, c'est le vestige refroidi du Big Bang, c'est-à-dire la première lumière émise dans l'histoire de l'univers. On baigne encore dans cette lumière refroidie, on analyse les structures et les caractéristiques, et qu'est-ce qu'on s'est aperçu en 2003 ? Qu'il y avait, en fait, on voit des vibrations dans cette lumière. Et il manquait quelque part des notes graves. J'aime bien les analogies avec la musique.
Parce que vous avez beaucoup la musique.
Ça a vibré, voilà. L'univers un peu comme un tambour cosmique qui vibre. Au lieu de vibrer sur toutes les longueurs d'onde, parce qu'il serait infini, par exemple, ou très grand, il cesse de vibrer à partir d'une certaine échelle. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les données. Donc on s'est dit, mais alors, il est possible que l'espace est finalement relativement petit, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas vibrer sur une taille plus grande que ce qu'il a en réalité. Et on a trouvé un certain nombre de candidats, dont un qui a fait la une de la revue Nature en 2003, dont on a beaucoup parlé, ça s'appelle l'espace dodécaédrique de Poincaré. Bon, le terme fait peur, mais c'est fascinant. C'est un modèle d'espace qui a un peu une forme dodécaédrique reconnectée, un peu comme dans des jeux vidéo, si vous voulez, tridimensionnels, compliqués. Et ce modèle d'espace, quand on calcule la façon dont il vibre, on retrouve ce qui est observé dans le télescope. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la forme de l'univers, ce serait prétentieux, mais en tout cas, c'est une piste nouvelle et intéressante qui tient la route 6 ans plus tard, parce que 2003, c'était il y a 6 ans.
Bah, j'allais vous dire, c'est une éternité, 2003, en science, c'est une
pour
éternité.
La science de pointe, c'est une éternité. Et ce qui est miraculeux, c'est que le modèle a tenu dans cette éternité.
Il tient
encore. C'est-à-dire, souvent, voilà, les modèles vont à la poubelle rapidement. Il tient encore et on espère beaucoup du lancement du satellite Planck qui a été fait donc en avril 2009. Et c'est un satellite qui va aussi cartographier le rayonnement fossile avec plus de précision que WMAP, et donc peut-être que là on aura des indices supplémentaires, soit pour confirmer ou soit pour éliminer le modèle de l'espace chiffonné.
Pour faire valoir, par exemple, en 2003, oui, ça a fait la couverture de Nature, même qu'il y a un éditorial dans Nature à l'époque qui vous comparait comme type de scientifique aux scientifiques de l'ère de Kepler.
Oui, ça, c'est le plus bel hommage qu'on m'ait jamais rendu.
Oui, j'imagine, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il devait quand même être content, Jean-Pierre Luminet. Mais bon, donc, on a accepté et on a célébré cette nouvelle idée que vous présentiez. Mais vous la présentiez comme scientifique européen, vous la présentiez comme scientifique francophone. Et ça, c'est pas toujours la voie royale pour présenter des nouvelles idées, même en astrophysique.
Oui, mais enfin bon, nos articles techniques sont rédigés en langue anglaise, bien entendu. Alors bon, c'est vrai qu'après, dans des labos anglo-saxons ou essentiellement américains, qui croient avoir l'apanage de la vérité cosmologique, c'est vrai que notre papier de Nature,
ça a chiffonné
signé
un peu.
On était 5 auteurs, il y en avait 4 européens, il y avait quand même un mathématicien américain de mes amis, tout à fait formidable, mais qui n'est justement pas dans le courant des cosmologistes américains, puisque lui, c'est un mathématicien. Voilà. Et c'est vrai que ça a un peu énervé. Donc on a eu pas mal de critiques et de controverses. Mais c'est bien, parce que ça fait avancer les choses. Parce que du coup, nous, on a affiné nos arguments. Si on a des contradicteurs, que ce soit de bonne foi ou pas, on affine nos arguments. Et c'est comme ça que ça a avancé. Et en plus, depuis, comme l'article était un petit peu sensationnel, il y a plein d'équipes qui se sont mises à travailler de par le monde dessus. Il y a des Brésiliens, il y a des Polonais, il y a des Chinois, etc. Donc ça fait avancer. On n'est plus seul. Et c'est ça qui est important.
Si on est seul dans l'univers, on ne le sait pas encore, mais vous n'êtes plus seul avec...
On est plus seul dans l'univers chiffonné.
Et quand on parlait justement de cet hommage que vous avez reçu dans Nature, on parlait de vous comme d'un scientifique qui ressemble un peu au scientifique de la Renaissance ou de l'époque de Kepler, parce que vous avez des intérêts variés.
Oui.
Entre autres, les arts, vous êtes artiste, vous êtes poète, et la musique. On va écouter, si vous le voulez bien, quelques notes de musique d'une pièce, Le Noir de l'Étoile, et on s'en reparle après. Alors Jean-Pierre Luminet, vous êtes astrophysicien, vous êtes un scientifique patenté, mais vous êtes aussi romancier, artiste, et vous avez à voir dans cette pièce de musique.
Oui, j'ai toujours été passionné par les arts, je dois le dire. Avant que d'être passionné par les sciences, j'étais passionné par les arts. Dès ma plus tendre enfance, j'ai baigné dans la musique, la peinture, la littérature, etc. Alors bon, je trouve qu'aujourd'hui, un petit peu, il y a un clivage qui est souvent fait entre justement les disciplines scientifiques qui se voudraient rationnelles, dépourvues d'émotions, et les disciplines artistiques qui se voudraient moins rationnelles, plus subjectives, etc. Je me suis toujours élevé contre ces clivages. Voilà, je suis fasciné par le modèle de l'homme de la Renaissance qui arrivait encore effectivement à pouvoir exercer avec compétence et pas simplement en dilettante superficiellement dans différents domaines. Alors la musique, oui, qui est l'une de mes plus grandes de passion, sinon la plus grande. J'ai eu la chance notamment de effectivement collaborer à la conception d'une œuvre musicale et astronomique dont vous venez d'écouter un extrait sans doute un petit peu étrange pour l'auditeur. Pourquoi ? Ben parce que ce sont des percussionnistes humains qui jouent et qui interagissent avec des rythmes cosmiques. Ce sont en fait des étoiles mortes qu'on appelle des pulsars qui fonctionnent un petit peu comme des phares radio et ils émettent un rythme. C'est pas un vrai son, hein, c'est un rythme électromagnétique, mais que l'on peut convertir facilement en rythme sonore. Et l'idée, donc, c'était qu'avait germé dans l'esprit d'un grand compositeur, Gérard Griset, qui m'avait donc contacté au début des années 90, c'était de faire interagir la musique des hommes et la musique des astres. Le résultat, c'est ce Noir de l'Étoile qui a été joué un petit peu partout dans le monde entier, qui est enregistré en disque et voilà, qui met ensemble des rythmes apparemment très distincts, très différents, et puis surtout des rendez-vous célestes, parce que le pulsar ne passe pas n'importe quand dans la fenêtre de visibilité du radiotélescope, donc c'est plutôt lui qui va nous donner rendez-vous pour l'heure du concert, la date du concert et tout. Donc c'était cette belle interaction entre, voilà, entre ces deux temps différents.
Ça, c'est votre contribution du côté musical. Vous êtes romancier, donc évidemment, manier les mots, la langue. Vous êtes poète aussi. Vous avez publié des recueils de poèmes. Vous êtes aussi un artiste visuel. Vous avez eu des expositions.
J'ai fait des expositions, oui.
Quelle est dans votre vie...
Je ne peux pas faire autrement, de toute façon. C'est ma façon de fonctionner.
Vous ne pouvez pas faire autrement.
Non, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, on me dit toujours, mais comment vous faites, c'est extraordinaire. Je dis, mais non, je serais incapable de faire autrement. Je n'arrive pas à m'atteler, si vous me mettez au début de la journée dans mon bureau, je n'arriverai jamais à travailler 8 heures de suite sur l'univers chiffonné. Il faut que je travaille. Je vais travailler 2 heures, puis après, il faut absolument que je passe une demi-heure à écrire un petit bout d'un roman, et puis après, je vais faire, je sais pas, moi, je vais faire un petit peu de musique chez moi, et puis je reviens, etc. Je fonctionne un petit peu par petits bouts, et je rassemble peu à peu les pièces d'un grand puzzle. Ça veut dire tout simplement que je suis pas très linéaire.
Hein? Mais en même temps, ça fait une somme de travail incroyable. Voir tout ce que vous avez publié, tout ce que vous avez pu faire, on se dit, il a le secret du temps, il a démultiplié le temps.
Ben, il est vrai que je suis devenu très travailleur, en fait. Dans mon enfance, je faisais rien en classe, parce que tout me paraissait facile, donc je m'amusais. Et puis, un jour, je me suis tellement pris de passion, finalement, pour tout ce qu'on pouvait créer, pour la création en général. Moi, c'est la création qui m'agite.
Alors, c'est pas la science qui vous a attiré, c'est la création.
C'est la création. C'est la création. Donc, figurez-vous, moi, quand j'avais 20 ans, etc., évidemment, j'avais fait des études scientifiques, parce que j'étais bon en maths. Donc, on nous met automatiquement dans les filières scientifiques. Alors, moi, je faisais des maths, parce que c'est ce qui me demandait le moins de travail.
Ah bon?
Eh oui, parce qu'une fois que vous avez compris les équations, ça va très vite. C'est plus rapide que la philosophie, où il faut écrire de longues dissertations, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je pratiquais la musique, je faisais de la peinture, je lisais énormément, j'écrivais, etc., etc. Et franchement, moi, quand j'avais 20, 22 ans, même dans mes études de mathématiques, je pensais devenir écrivain ou peut-être musicien. Et j'ai eu la chance, qu'est-ce qui m'a fait tourner vers la recherche scientifique ? J'ai lu un livre de vulgarisation. D'où l'importance des livres de vulgarisation et pourquoi je m'y suis mis, moi, plus tard, à les écrire. Un livre de vulgarisation formidable, donc qui datait des années 70, qui parlait un peu du Big Bang, à l'époque, c'était pas encore très connu, un peu des trous noirs, on a commencé à en parler. Donc, des sujets, moi, qui m'ont titillé l'imagination et qui m'ont fait dire, mais finalement, les maths que je fais, qui sont abstraits, c'est intéressant, mais c'est tout à fait pas de rapport avec le réel, mais si, ça peut servir à faire des choses aussi grandioses que carrément décoder, finalement, les mystères de l'univers. Qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que c'est le temps? Est-ce que l'univers est éternel, infini ou pas? Et voilà, donc du coup, j'ai basculé et j'ai compris que la recherche scientifique pour devenir aussi créatrice que la recherche artistique et littéraire.
Et j'ai lu quelque part, quand vous décriviez votre parcours d'enfant à scientifique connu et reconnu, que votre première vocation, c'était le rêve. Vous étiez d'abord rêveur. Et avec tout ce que vous avez intégré de romans, de poésie, de musique, tout ça, avez-vous l'impression d'avoir réalisé cette ambition, d'avoir suivi cette vocation?
Oui, bon. non, on ne réalise jamais complètement le rêve. Hein. Moi, j'ai fait des rêves que je ne réaliserai jamais. Hein. Au vol, dans l'espace, dans l'univers, etc. Bien entendu. Non, mais c'est vrai, la part onirique est aussi très, très importante. Il y a une part ludique aussi, il faut bien voir, dans la création et la création scientifique. On peut jouer avec des équations, jongler avec. Bon, il suffit d'avoir un peu la technique. Hein. Un prestidigitateur, il doit s'entraîner aussi pour faire des tours. Donc, un mathématicien, un physicien théoricien, il doit savoir un peu jongler avec les équations pour en faire sortir des choses intéressantes. Et il y a une forme de jeu. Mais après, au-delà du jeu, si on veut faire de la physique, si on veut essayer de décrire le monde réel, bah, quand même, il faut confronter le jeu à la dure réalité. Hein. Les instruments, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les mesures, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, c'est cette confrontation qui m'intéresse. Alors, souvent, le jeu vient en partie du rêve, et de la rêverie poétique ou pas, d'ailleurs, sur des idées qu'on peut se faire sur l'univers. A priori, la conception d'un univers chiffonné, par exemple, elle est un peu poétique. Elle est à la limite onirique, si vous voulez. Après, on arrive à la mettre en forme. Tout comme un artiste, si vous voulez, qui aura une idée musicale ou l'idée d'une œuvre plastique, il va y avoir un petit germe, il va élaborer ça avec une certaine structure. C'est pareil avec les modèles scientifiques. Mais après, le modèle scientifique, il se doit d'être objectif et plus subjectif. Donc, il faut le confronter à la réalité expérimentale et ensuite, après, également aux
observations, éventuellement.
Oui, et à la communauté aussi. Oui. Il faut que ce soit accepté par tous parce qu'il faut que ce soit cohérent, pertinent et tout et tout. Et c'est ce jeu qui est fascinant. Le rêve constamment, les ailes de l'imagination constamment rognées, coupées, et on essaie de continuer à voler.
Et ça repousse. Et ça repousse.
Comme
une queue de lézard. Parce que, ouais.
Voilà. Alors c'est pour ça que moi, des scientifiques du passé comme Kepler, par exemple, me fascinent, parce que Kepler est quelqu'un qui a su à plusieurs reprises dans sa carrière, où il a fait preuve d'une prodigieuse imagination, d'une invention permanente, savoir changer de chemin. Quand les observations montraient que finalement son idée ne marchait pas, il passait à autre chose et voilà. Et comme ça, il a toujours été créatif. Il y a d'autres scientifiques, c'est pas le cas. Même quelques grands scientifiques sont restés toute leur vie enfermés dans une idée. Voilà. Donc moi, je suis avec cette idée un peu fantasmatique d'une création sans cesse renouvelée.
Jean-Pierre Luminet, et nous comme citoyens, est-ce qu'il faut travailler aussi à se tenir au courant de ce que l'astrophysique apprend, des dernières données scientifiques, pour être un citoyen compétent?
Absolument.
Est-ce que c'est un luxe ou est-ce que c'est une nécessité que d'en savoir sur la science?
Alors, comme disait mon ami Hubert Reeves, effectivement, la culture scientifique n'est pas un luxe juste pour hommes cultivés, c'est une nécessité absolument fondamentale et sociale. Il y a des enjeux sociaux dans la compréhension de la science, ne serait-ce que d'abord à l'échelle planétaire, hein, mieux comprendre les enjeux de la planète. Hein. Aujourd'hui, les problèmes, j'ai mentionné au début un peu de court terme sur notre planète, les nouvelles ne sont pas très très bonnes, il faut en connaître les enjeux, les expliquer. Mais les expliquer de façon objective, hein, ce n'est pas toujours du négatif. Si on pense aux déchets nucléaires, au réchauffement climatique, aux OGM, aux manipulations génétiques, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Il faut des passeurs de savoir. Alors parfois, ce sont des professionnels, des scientifiques professionnels qui acceptent de faire cela, ou parfois, ça peut être des médiateurs journalistes quand ils font bien leur travail, mais c'est un travail essentiel. Et il y a une responsabilité de la part du public, à condition qu'on leur offre ça. Il faudrait que les médias, bon, c'est très bien, à la radio vous le faites, à la télévision, je dois dire, en France en tout cas, sur les chaînes publiques, les documentaires scientifiques ont quasiment disparu.
Ah oui.
On n'offre plus là cette possibilité au public de s'informer. Or, le public a besoin de ça pour être pleinement citoyen. Il a besoin de savoir dans quel univers on vit. Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir exactement quel est le plus proche trou noir, etc. Ou quel est l'âge de l'univers, comment a été le Big Bang. Mais au moins des choses de plus, enfin voilà, de un peu de proximité, l'état de notre planète, que nous dit la biologie également, tout un ensemble de choses. Et voilà, pour être pleinement citoyen du monde, pleinement informé, la culture scientifique est absolument fondamentale.
Et l'astrophysique, pour vous, elle est ancrée dans la culture, pas seulement dans la science comme telle. L'astrophysique, elle a une âme.
Elle fait pleinement partie de la culture, elle a une âme. L'âme, justement, que j'essaie aussi de raconter dans mes romans, Les Bâtisseurs du Ciel, où on montre justement comment ces grands savants, les Copernic, Kepler, Galilée, ce ne sont pas des êtres désincarnés. Ils ont une âme, ils ont révolutionné la science avec leur âme, avec leur cœur, avec leur esprit, tout cela ensemble, en se heurtant à la société, aux obstacles idéologiques, politiques, philosophiques, religieux, etc. C'est ça la science. La science est totalement partie intégrante de la société. Elle en est d'ailleurs l'un des moteurs, en fait, des progrès et de l'évolution, mais parfois aussi, ça bifurque dans les directions un petit peu dangereuses. Voilà, c'est pour ça qu'il faut une science responsable. Et entre maintenant la notion fondamentale d'éthique, il doit y avoir une éthique scientifique. Alors, l'éthique est plus évidente dans des domaines tels que la biologie. Faut-il faire des manipulations biologiques, des manipulations génétiques, des clonages, etc. L'éthique, elle est moins évidente dans les domaines plus lointains, comme les sciences de l'univers, mais il y a quand même, malgré tout, des questions d'éthique qui se posent également dans ces domaines-là. Donc le scientifique doit être un être responsable et le grand public doit avoir aussi la responsabilité de savoir s'informer correctement de ce qui se fait dans les labos.
Ben, ça fait plaisir d'avoir des scientifiques comme vous qui prenez la peine de venir à nous, public, expliquer toutes ces choses, entre autres dans ce livre, ce dernier livre, Bonne Nouvelle des Étoiles, Jean-Pierre Luminet, que vous signez avec Elissa Brune aux éditions Odile Jacob. Il y a cette série des Bâtisseurs du Ciel sur les grands astronomes Kepler, Copernic, Galilée.
Et je suis en train de finir le dernier volume sur Newton.
Newton s'en vient, c'est promis, c'est juré pour tout le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous
de cette visite aux années-lumière. Je rappelle que vous êtes astrophysicien, écrivain, poète, artiste et spécialiste des trous noirs et de la cosmologie, de la topologie de l'univers, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique et membre du laboratoire Univers et théorie à l'Observatoire de Paris-Meudon. Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est tout pour cette édition des Années-Lumière. L'équipe cette semaine était composée du réalisateur Dominique Lapointe. À la technique, Steve Côté, journaliste Mathieu Gobeil, Gaëlle Lucia Berdou et Chantal Srivastava, journaliste au site Internet Lily Boisvert. On aime vous entendre, vous lire. Vos questions, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous les déposez par téléphone au 514-597-6166 de Montréal ou de l'extérieur 1-800-752-9050. Par courriel, vous nous joignez à l'adresse suivante, lumière@radio-canada.ca. C'est Sophie-André Blondin qui vous parle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière.